Bonsoir et bande de bitumen à tous. L'augmentation depuis ce week-end du prix du carburant. À Kinshasa, le litre d'essence est passé de 970 francs congolais à 1150 francs congolais, soit près de 20% d'augmentation. Qu'est-ce qui justifie cette hausse et quelles pourraient être les conséquences sur le quotidien des Congolais? C'est notre thème de ce soir. Participe au débat de ce soir de Donny Fikiri, directeur du cabinet du ministre de l'économie. Il est avec nous dans ce studio. Monsieur Fikiri, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Georges Moukouna, président de la Commission nationale des pétroliers à la Fédération des entreprises du Congo FEC. Il est aussi vice-président de Codil, une société pétrolière. Monsieur Moukouna, bonsoir.
Bonsoir.
Et l'honorable Martin Fayoulou, député national de l'opposition, président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement UPD. Il est ancien directeur général de la société pétrolière ExxonMobil dans plusieurs pays d'Afrique. Honorable, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être nombreux à réagir au thème de ce soir. Nous vous encourageons à le faire. Soleil Nyangoulé de Kinshasa, nous vivons dans un pays où le peuple n'a que des devoirs mais pas de droits. Ailleurs, avant d'appliquer une hausse de plus ou moins 19% sur un produit aussi vital que l'essence, le gouvernement a le devoir d'informer au préalable la population du bien fondé de la décision. Mais chez nous, on pense être au pouvoir suffit pour imposer n'importe quelle situation au petit peuple. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et à travers le monde sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Augmentation du prix du carburant depuis ce week-end à Kinshasa, le litre d'essence est passé de 970 francs à 1150 francs congolais. La même situation s'observe aussi à Matadi dans la province du Bas-Congo où le litre est passé de 850 francs à 1150 francs. Et à Kisangani dans la province orientale, le litre d'essence est passé en l'espace de quelques heures de 1500 francs à 2500 francs congolais chez les revendeurs des produits pétroliers. Le gouvernement justifie cette hausse par le fait qu'il renonce à la prise en charge de la taxe que lui devaient les pétroliers. Voilà qui a conduit à une hausse de près de 20% sur le prix des produits pétroliers. L'explication vient du ministre de l'économie. Le gouvernement ne pouvait plus poursuivre cette subvention. C'est à l'option du gouvernement de maximiser les recettes. Ce sont surtout les partenaires extérieurs de la RDC qui menaçaient de suspendre leur appui au budget 2011 en cours d'élaboration si le gouvernement congolais continue à subventionner les produits pétroliers. On écoute le ministre de l'économie Jean-Marie Boulambo au micro de Daniel Sandiouni.
Les partenaires de la RDC se disent que nous ne pouvons pas nous amener nos appuis pendant que par vos recettes qui auraient dû devenir s'ajouter à l'effort que nous faisons, pendant que donc cet effort, cette collecte intérieure est en train d'être utilisée pour financer les entreprises de l'intérieur. Alors ils se disent, ou bien vous continuez avec votre politique et nous n'intervenons pas, les appuis budgétaires nous les bloquons, vous comprenez, c'est ce qui a amené le Premier ministre de nous instruire de cesser cette prise en charge assez lourde pour le trésor public et de pratiquer le prix réel sur le marché pour ne pas nous permettre de prendre le risque de ne pas voir les appuis budgétaires venir dans notre pays.
Merci Daniel pour ce reportage. Monsieur Dieudonné Fikiri, vous êtes directeur du cabinet du ministre de l'économie nationale. Qu'est-ce qui justifie cette hausse? Pour le ministre, le gouvernement, cette hausse est due au fait qu'il renonce à la prise en charge de la taxe que lui devait le pétrolier. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez un peu plus clair pour les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Très bien, merci beaucoup madame pour la question. D'abord, il y a lieu de retenir que, au stade actuel, le gouvernement de la République est un programme économique du gouvernement, programme PEC 2, avec les partenaires du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Ce programme a des exigences et ce programme a retenu un cadre macroéconomique quelconque. Si je prends la situation des cadres macroéconomiques 2010, Je constate tout simplement que le taux d'inflation qui avait été aligné dans ces cadres au départ, il était retenu à 15% en annualisé, tandis que le taux de croissance pour la même année avait été établi à 5,4%. Tout cela implique une certaine politique. Il y a une stratégie qui est mise en place pour atteindre cet objectif-là. Malheureusement, depuis très longtemps, avant même l'arrivée du ministre Jean-Marie Boulambo au gouvernement, tout en étant en programme avec le Fonds monétaire international, qui a ses exigences, notamment la vérité des prix. Nous-mêmes également, comme option économique que nous avions retenue, c'était le libéralisme économique. C'est vrai que, selon la loi, chez nous, tous les prix sont fixés par ceux-là même qui offrent les produits, mais à l'exception des quatre produits, à savoir les produits pétroliers, l'eau, l'électricité et les transports. Alors, face à cette situation difficile que le pouvoir d'achat de la population, les gouvernements prenaient en charge. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire tout simplement que quand les paramètres, les trois paramètres qui déterminent le ministère de l'économie nationale, en concertation avec la profession pétrolière, pour arrêter le prix à la pompe, si l'un des trois paramètres augmente à plus 5% ou à moins 5% selon les cas, les deux parties doivent se réunir pour ajuster les prix. Alors, là où il fallait ajuster les prix, selon le comportement de ces trois paramètres, le gouvernement, pour préserver le pouvoir d'achat de la population, refusait d'autoriser l'augmentation des prix à la pompe, conformément à la résolution des concertations bilatérales entre les parties, et le différentiel entre le prix pratiqué et celui qui devait être affiché à la pompe était pris en charge par le gouvernement.
Et c'était quoi le prix qui devait être affiché à la pompe?
Ben, je peux donner un exemple. Quand nous sommes arrivés au ministère de l'économie nationale, entre octobre et décembre, entre octobre 2009 et janvier 2010, le prix qui était affiché était de 890. Mais en fait, après concertation entre les parties, les prix qu'on devait réellement afficher, que la population devait supporter pour avoir le
litre de carburant,
était de 1200, soit une prise en charge de 310 francs congolais le litre que le gouvernement était en train de supporter. Cela également a été observé fin janvier 2010, nous avons procédé à une augmentation de prix à la pompe. Nous devions être à 1200, mais tellement la pression était forte, nous n'avons accepté qu'une timide augmentation. C'est comme ça qu'en fin janvier, le pétrole, le prix à la pompe est passé de 890 à 970 francs congolais. Et vous constaterez que, à ce moment-là, la prise en charge par l'État a diminué. Parce que si vous regardez le différentiel entre 970 francs congolais de litre et les 1200 qui auraient dû être affichés, il y a un différentiel de 230 francs congolais.
Et donc, si je vous comprends bien, le gouvernement ne prendra plus en charge cette différence-là de prix, voilà, entre le prix réel et les prix actuels à la pompe.
Voilà, c'est ça l'idée. Mais il faut comprendre pour quelles raisons le gouvernement en est arrivé à cette résolution. Parce que vous deviez le savoir.
Oui, allez-y.
Vous deviez le savoir. Tout gouvernement a un objectif à travers sa politique économique de plein emploi, dans tous les cas. Donc, il ne peut pas travailler contre les intérêts de sa population. Mais ici, malheureusement, il fallait arbitrer. Nous nous sommes retrouvés dans une situation, en septembre, ici, vous-même, vous avez suivi, c'est la session budgétaire. Nous sommes d'ailleurs dedans. Le gouvernement a présenté au Parlement, à l'Assemblée nationale, un projet de budget. Si vous prenez ce projet de budget, vous constaterez que le budget, les recettes totales qui ont été soumises aux discussions de l'Assemblée nationale, se montent à 6 575,5 milliards de francs congolais. Et là-dedans, si vous prenez les recettes intérieures, ça veut dire les recettes que nous mobilisons à travers les régies financières, à savoir l'OPIDA, etc. et autres, ces recettes ne se montent qu'à 3 106,9 milliards. C'est ça qui est attendu. Ça représente quelque chose comme 65% de recettes attendues en 2011. si vous comparez même ces recettes attendues en 2011 aux dépenses projetées au secteur public, ça ne représente que 79%. Tandis que la partie attendue de partenaires extérieurs se monte à 2 923,4 milliards de francs congolais, soit 45% de l'ensemble des recettes présentées à l'Assemblée nationale. Alors, au départ, je parlais des exigences du programme.
Rapidement, monsieur Tiki, voilà. Parce qu'on doit passer la parole à l'autre.
Au départ, je parlais des exigences du programme. Ça voulait dire quoi? Les gens et le ministre venaient de dire. Les gens du Fonds monétaire, les partenaires, ont dit que nous ne pouvons pas accepter que vous continuez à dépenser votre argent de la manière dont vous gérez votre situation macroéconomique, et nous devons apporter pareil montant à votre budget. Il faut éliminer et aller vers la vérité de prix. Il faut annuler la négativité, comme nous l'appelons, et voilà pourquoi nous en sommes arrivés là, sur instruction du Premier ministre qui devait se conformer à ces exigences.
Merci, M. Dieudonné Sikiri. M. Georges Mukuna, vous êtes président de la Commission nationale des pétroliers à la SEC et aussi vice-président de COBIL, une société pétrolière. Comment vous appréciez les explications du gouvernement par rapport à la hausse du prix du carburant?
Oui, merci. Je commencerai par dire que, avec le directeur de cabinet, en partageant, disons, des informations, j'espère, dans un cadre après comité de suivi. Donc, ça signifie que l'analyse qui fait de la situation, c'est une analyse partagée. Je voudrais, pour ne pas me répéter ce qu'il a dit, peut-être aborder d'une autre façon certains chiffres. L'expérience de la structure des prix des produits pétroliers a souvent situé le niveau de la fiscalité, donc des recettes fiscales tirées des produits pétroliers dans le milieu des distributeurs, l'a souvent situé entre 10 et 12 millions de dollars par mois. Il faut reconnaître que depuis plusieurs mois, au courant déjà de l'année passée, comme ça a été dit par M. Fikiri, donc le gouvernement a fait de prise en charge de cette fiscalité, qui est tombée, partant de 12 millions, qui est tombée à 4 millions de dollars par mois. Donc ça signifie qu'il y avait un manque à gagner de la part de l'État, de recettes de l'État, de 6 millions chaque mois. Donc l'exercice auquel on vient d'assister et qui correspond aux raisons qui ont été données, c'est en fait de retrouver ces 6 millions, de remettre ces 6 millions dans la structure de prix pour en faire amener les recettes fiscales à leur niveau habituel. Donc, indépendamment du fait d'augmentation du prix, il y a la reconstitution du niveau de recettes de fiscalité à 12 millions. Et ces 12 millions, le niveau de recettes qu'on a toujours connu dans ce pays, qui ramène le prix au niveau où il se trouve, donc d'une augmentation de près de 20%.
Pétrolier, vous êtes satisfait de cette décision du gouvernement, vous vous retrouvez?
Non, c'est, disons, le pays, là je parle en tant que citoyen, c'est le pays qui se retrouve dans ce recette, parce qu'en fait, cet élément de fiscalité ne nous concerne pas nous directement. Hein, dans la structure de prix de produits pétroliers, en fait, il y a plusieurs paramètres. Il y a un paramètre qui est le coût d'acquisition de produits, que nous appelons PMF. Nous avons les coûts de distribution de produits, c'est-à-dire le produit reçu jusqu'à sa vente en détail dans la station service. Et puis nous avons les éléments de fiscalité. Donc, l'impact qui vient de ces éléments de fiscalité, je ne veux pas dire que nous sommes indifférents, mais disons qu'ils sont sans impact par rapport à nos paramètres de structure de prix. Donc, c'est indépendamment de la structure de prix. Et comme je disais, c'est la prise en charge que le gouvernement faisait qui fait que le prix était bas par rapport à leur valeur réelle. Et là, en fait, c'est la reconstitution tout simplement du prix. Mais pour les pétroliers, c'est sans impact, parce que ce sont des paramètres qui ne nous reviennent pas.
Alors, tout à l'heure, M. Fikiri a parlé du prix réel du litre d'essence, 1200 francs congolais, mais malgré la majoration du prix du litre, ça n'atteint pas les 1200 congolais.
Non, 1200 congolais, c'était la réalité de ce que devait être le prix à ce moment-là, donc aux périodes qu'il avait indiquées, mais ce n'est pas en soi un objectif d'avoir un prix à 1200. il peut baisser, il peut augmenter, suivant les paramètres qui permettent de fixer le prix, entre autres le coût d'acquisition, entre autres le niveau de la fiscalité, le comportement du taux de change et autres. Donc 1200 n'est pas en soi un objectif, mais c'est un constat que, et on fait le calcul de la structure de prix, on avoisine effectivement les 1200. Demain, certaines réalités peuvent faire que ça baisse, tout comme ça peut faire que ça augmente.
Alors, il y a cet auditeur de Kinshasa, Soulaine Yangwile, qui dit ceci: nous vivons dans un pays où le peuple n'a que des devoirs, mais pas de droits. D'ailleurs, avant d'appliquer une hausse de plus ou moins 19% sur un produit aussi vital que l'essence, le gouvernement a le devoir d'informer au préalable la population du bien fondé de la décision. Mais chez nous, on pense qu'être au pouvoir suffit pour imposer n'importe quelle situation au petit peuple. Comment vous réagissez à cette réaction, M. Mokola?
Moi, je réagis en fait un peu plus en technicien, et je dis en technicien, je vous ai parlé des paramètres qui sont des paramètres d'appréciation qui correspondent à des réalités. Hein. La réalité, d'une part, c'est qu'il faut acheter un produit, ça a un coût, qu'il faut le distribuer, ça a un coût, et que l'État, dans le cadre du prix que nous avons, a un niveau de fiscalité attendu. Hein. Et ce niveau de fiscalité, c'est celui qui justifie le prix d'aujourd'hui. En fait, c'est un prix qui aurait dû s'appliquer déjà depuis longtemps. S'il n'a pas été fait, c'est parce que le gouvernement, pour sauver le pouvoir d'achat, a fait des sacrifices sur les paramètres qui lui revenaient. Et donc là, ayant relâché cette subvention, on revient à la réalité de prix qui est effectivement de ce niveau-là.
Est-ce que le Congolais est en mesure d'acheter son litre de carburant à ce prix aujourd'hui?
Je ne sais pas si c'est pour moi de répondre à cette question, mais si vous me la posez parce que je suis aussi Congolais, je dirais que je répondrai par dire: est-ce que faut-il garantir l'approvisionnement régulier ou bien faut-il sacrifier un prix? Parce qu'il est possible qu'on puisse avoir un prix bas, mais sans garantie de renouvellement de stock. Or, pour renouveler de stock, il faut appliquer le raisonnement, il faut appliquer la vérité de prix. Et je crois que sur le plan tout simplement technique, l'application de cette vérité de prix a justifié et garanti en même temps l'approvisionnement du pays.
Merci Monsieur Georges Mukuna. Martin Fayoulou, vous êtes député provincial de l'opposition et président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement étudié. Vous êtes ancien directeur général de la société pétrolière ExxonMobil dans plusieurs pays africains, même en Europe et même en Amérique du Nord. Comment vous réagissez à la décision du gouvernement?
Écoutez, la décision du gouvernement montre simplement que de quoi certains citoyens congolais doivent dire la vérité, et il faut laisser à ces gens de dire la vérité. Et comme nos amis de l'Union pour la Nation ont décrit dans leur état de la Nation, c'est qu'il n'y a pas de politique économique dans ce pays. Il n'y a pas de politique économique. Nous comprenons que la structure des prix doit être une structure réelle. Mais l'État, le gouvernement, peut voir venir des choses et éviter que les prix augmentent. Parce que là, les prix augmentant, les prix du pétrole et du carburant augmentant, ça va entraîner, la cascade d'augmentation des prix dans les commerces. Donc, il y a un problème. Il y a un problème de structure de l'économie. L'économie n'a pas de structure. Il n'y a pas de création de richesses. S'il y avait des créations de richesses, on pouvait trouver cet argent ailleurs.
Ou par exemple Ou par exemple?
Mais s'il y avait des créations d'entreprises, des entreprises paieront des taxes. S'il y avait la création d'emplois, les citoyens paieront d'impôts, impôts sur le revenu, et l'État se trouverait enrichi. Et l'État pourrait engager certaines dépenses avec cet argent. Et encore, si l'État pouvait juguler la fraude dans certains domaines, on parle du prix du carburant, on parle des taxes. Et vous savez, c'est qui entre au sud du pays sans droit d'entrée. Vous connaissez donc le manque à gagner de l'État dans cette partie de la République et dans d'autres parties aussi. Et vous voyez, donc, l'État a besoin d'argent. On a parlé des 3 000 milliards ici, on a parlé des montants, mais ce sont des montants. Mais c'est les montants qui sont au numérateur. Mais si le dénominateur est gonflé, c'est-à-dire s'il y a beaucoup plus de volume, et le quotient sera moindre. Donc la taxe à imposer à la population au consommateur sera moindre. Donc, et j'ai dit qu'il y a un problème de structuration de l'économie, il y a un problème de programmation, il y a un problème de planification. Et l'État ne crée pas assez de richesses, donc nous sommes dans une économie qui n'existe pas. Donc, je peux vous dire, madame, nous avons des économies pareilles. Si vous prenez l'économie de l'Éthiopie, si vous prenez l'économie du Cameroun, si vous prenez l'économie du Nigeria, mais dans ces pays-là, qui ont, eux, de produits intérieurs bruts ou produits nationaux bruts par habitant supérieurs, largement supérieurs aux nôtres, nous avons des prix de carburant au litre qui sont moindres. Au Cameroun aujourd'hui, le litre est à 1,25$ à peu près, et nous sommes aujourd'hui à 1,30$. Au Nigeria, le litre est à 40 cents. Vous comprenez? Mais pourquoi? Le Nigeria aussi est en programme avec les institutions de Bretton Woods. Le Cameroun l'est aussi, l'Éthiopie certainement. Donc, comment est-ce que dans ces pays, on arrive à contenir la pression des taxes pour, maintenir le prix à la pompe? Donc, il y a un problème de programmation et un problème de responsabilité du gouvernement. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? Le gouvernement est sourd. Le gouvernement n'attend pas le pleur des citoyens. Demain, hier, le prix du pain a augmenté. Et nos amis de l'Union de la Nation l'ont encore rappelé que les prix ont augmenté de 20 à 30% hier déjà. Et aujourd'hui et demain, ça va augmenter de combien quand le prix des transports va augmenter? Et quand tout le monde va augmenter de prix, quel sera le sort de la population?
Alors, M. Fayoul, on a l'impression que le gouvernement se retrouve aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a les impératifs sociaux et de l'autre côté, il y a les soucis de satisfaire les partenaires extérieurs. Quelle attitude le gouvernement doit adopter par rapport à cette situation?
Je vous l'ai dit, madame, c'est dans le programme économique. Il faut définir un programme cohérent et ça demande un travail. Il faut définir un programme cohérent, il faut arrêter avec la politique des dons, il faut arrêter avec l'improvisation, il faut arrêter avec des exonérations qui sont données comme ça. Vous savez, je ne reviens pas en question, par exemple, les exonérations aux miniers sur le produit pétrolier. Mais est-ce qu'on a bien étudié, les miniers consomment combien de millions de litres par an et pourquoi sur ce produit-là? Qui ne sont pas des intrants, parce que ce sont des produits locaux, qui ne sont pas des intrants dans leur investissement, des intrants qui viennent de l'extérieur, pourquoi on doit accorder des exonérations? C'est une question, c'est une réflexion à mener. Mais on doit aller plus loin. Quelle est cette politique économique par rapport à nos moyens que nous devons mettre en place pour que demain nous créions des richesses, madame? Si on a une politique agricole, si on a une politique pour donner l'emploi, dites-vous bien, aujourd'hui, je ne sais pas quel est exactement le taux de chômage ici. Si vous réduisez le taux de chômage de 30 points et vous donnez du travail à 10 millions d'habitants, et que ces 10 millions d'habitants par mois payent, mais non, juste $5 par mois d'impôts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez 50 millions de dollars par mois. J'ai fait un calcul simple, mais on peut affiner l'exercice. Vous aurez 50 millions de dollars par mois d'impôts. Et tout ça, ça contribue à épargner la population de tels désagréments.
Merci, honorable Martin Sayoulou. Monsieur Sipiri, Dieudonné Sipiri, le pays n'a pas, il n'y a pas de politique économique dans le pays. Comment vous répondez à cette réflexion de l'honorable Sayoulou?
Moi, je ne peux pas suivre cette réflexion, je ne peux pas adhérer à cette réflexion parce qu'en fait, je crois que nous parlons économie et ce sont les statistiques qui attestent si réellement il y a une politique économique ou qu'il n'y a pas de politique économique. Je crois que je veux parler du cadre macroéconomique et je veux parler du taux de croissance attendu en 2010. Je dis qu'en 2010, nous allons réaliser un taux de croissance de 6,1%. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le produit intérieur brut dont il a parlé, qui était à un niveau donné en 2009, et s'est accru de 6,1%. Et qui parle de l'accroissement du produit intérieur brut ne peut que parler de création d'emplois. On peut parler. Et j'ai dit, toute politique économique du gouvernement poursuit cet objectif-là de plein emploi. C'est vrai que c'est difficile de réaliser le plein emploi dans un pays, même dans les pays développés, ça n'a, vous entendez, ce problème du chômage. Mais là où je voulais attirer l'attention de M. Fayoulou, c'est à ce niveau. Il faut faire une analyse de notre situation économique. Si vous regardez la décade passée, nous n'étions que dans un processus de décroissance, c'est-à-dire de destruction des richesses déjà créées. Et c'est à partir de 2001 que nous avons commencé à stabiliser cette destruction des richesses et espérer progressivement à des taux de croissance positifs, au point qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui est attendu au regard des comportements de branches d'activité économique constitutives du produit intérieur brut, le taux de croissance attendu en 2011 est projeté à 12%. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là aussi, on s'attend à des créations de richesses qui s'accompagnent avec la création d'emplois. C'est vrai que, au regard de la pauvreté qui nous caractérise, compte tenu du passé, nous voudrions que cela se passe rapidement. C'est ça qui expliquerait la préoccupation de l'honorable Fayoulou. Et je peux même dire que dans sa réflexion, quand il a parlé du problème de l'ITRE en Éthiopie et d'autres pays, hein, comment eux, ces pays-là, il faut analyser d'abord leur politique fiscale. Parce que cette prise en charge, j'ai dit, ça date d'il y a quelque temps. C'est un peu comme vous avez traîné pour prendre mesure. Si vous avez traîné pour vous faire guérir d'une malaria, ça évolue. Mais je vous dis, il vous faudrait une dose importante pour et un temps pour vous guérir. C'est un peu la situation qui nous a caractérisé et qui a conduit à cette recherche d'arbitrage. Faut-il perdre les 2,9 milliards et quelques contre cet ajustement qui nous amène vers la vérité de prix, le président de la commission pétrolière l'a dit, ou bien nous devions rester dans la prise en charge et perdre les 2,9 milliards que nous attendons de partenaires. Moi, je pense que c'est vraiment un arbitrage douloureux, mais il fallait que le gouvernement, qui doit travailler et qui travaille pour le bien-être de sa population, puisse lever l'option. Et c'est ça l'option qui a été levée. Le souci doit être de comment accompagner cette mesure pour préserver le pouvoir d'achat de la population.
Alors, merci, monsieur Dieudonné Sipiri. Monsieur Georges Mukuna, vous pensez qu'en majorant le prix du litre à la pompe, comme ça, le problème est réglé?
Non, le problème n'est pas réglé, parce que, en fait, il ne faudra pas considérer des majorations de prix comme étant un jeu de plaisir. Que bon, les gens sont assis et puis se font plaisir comme dans un jeu de dames pour augmenter le prix. Non, l'augmentation de prix, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est une expression d'un certain nombre de paramètres qui met ensemble certaines réalités du moment. Aujourd'hui, le prix augmente, mais il peut aussi baisser. Si les éléments qui interviennent dans la structure de prix deviennent favorables, si le coût d'importation diminue, si le taux de change se raffermit, si pour le niveau de la fiscalité...
Mais le taux de change est quand même stable depuis un certain temps.
Oui, le taux est stable, mais nous disons que dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, l'augmentation est liée à la restitution du niveau fiscal de la structure de prix. Donc c'est ça qui explique, disons, l'augmentation aujourd'hui. Mais je ne pense pas que c'est à tout moment qu'on va faire de réajustement. Donc là, on est revenu à un niveau normal. Après, il faut espérer seulement que des éléments qui influent sur l'augmentation, enfin sur le changement de prix, ne puissent pas nous être défavorables. Donc, c'est effectivement douloureux, mais comme on a dit, c'est douloureux parce qu'en fait, il y a des mesures qu'il n'a pas dû prendre, qui sont seulement prises aujourd'hui, donc l'écart dans l'augmentation est forte. Mais je ne pense pas que les gens vont s'attendre à des augmentations de ce même type plus fréquemment, hein, des autres resteront dans les limites généralement acceptables.
C'est quand même la première fois qu'on assiste à ce genre d'augmentation. Très souvent, c'est une augmentation de 30 francs, 50 francs, mais là, c'est à peu près 180 francs congolais.
Oui, en fait, c'est parce que les gens ne s'étaient pas rendus compte que le gouvernement faisait un effort de subvention. Donc, on était. Ici, je vous observais pendant un temps, il y avait des prix qui augmentaient dans d'autres pays. Ici, les prix étaient restés plus ou moins stables. Des fois, les gens étaient un peu surpris de voir que, bon, du côté pétrolier, rien ne changeait. Mais le fait que ça ne changeait pas, c'est en réalité le gouvernement qui prenait en charge une partie de la fiscalité. Donc, mais maintenant, le fait de la relâcher, elle revient à son niveau normal. Parce que c'est depuis, disons, le dernier trimestre de l'année passée, qu'on aurait pu déjà être dans des prix au-delà de 1000 francs. Hein, donc, la réalité par rapport aux chiffres, techniquement, ce niveau n'est pas surprenant. Et même lorsque vous le prenez en dollars, vous remarquerez que le prix il est autour de 1,25$, à peu près 23,25$. Mais ce niveau-là, on l'a connu plusieurs fois. Toute l'année 2008, le prix était même au-delà de ce niveau en termes de dollars. Donc, ce n'est pas en termes de prix, compte tenu des paramètres qu'il y a dans la structure de prix, c'est un niveau qui correspond en fait à aux réalités de la structure de prix.
Alors, on va prendre une autre réaction d'un auditeur, cette fois-ci du site Kivu, Matumaini Franklin, qui dit ceci: je pense que cette situation pourrait s'expliquer par la non-mise en valeur de nos ressources, car si notre État pouvait penser à exploiter nos réserves, ces genres de situations ne se poseraient pas, monsieur Mokuna.
Lorsqu'il n'y a pas de réserve, je parle de réserves pétrolières ou des réserves dans d'autres produits.
Je crois des réserves pétrolières, je crois. Ressources.
Oui et non, hein. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, lancer des politiques dans des ressources que nous avons, ça peut être plus cher que ce que nous avons aujourd'hui. Hein, parce que le produit que nous achetons sur le marché international, hein, ce sont des quantités de produits qui sont sollicités par plusieurs et qui sont mises en compétition. Mais par contre, si nous prenons que nos propres réserves, il faut avoir des outils. Il faut avoir des outils de rechercher ça, il faut avoir des outils de le raffiner. Il y a plusieurs éléments de coûts qui interviennent qui peuvent faire que finalement le prix, ça ne veut pas dire qu'il sera nécessairement moins cher. Le fait d'avoir des ressources ne veut pas dire prix moins cher. Donc, ce n'est pas nécessairement dit.
Alors, augmentation depuis ce week-end du prix du carburant. À Kinshasa, le litre d'essence est passé de 970 francs congolais à 1150 francs congolais. C'est notre thème de ce soir. Participe au débat de Donné Sikiri, directeur du cabinet du ministre de l'économie nationale, Georges Mukuna, président de la Commission nationale des pétroliers à la SEC. Il est aussi vice-président de COBI, d'une société pétrolière, et Martin Kayulu, député provincial de l'opposition, président d'un parti politique, engagement pour la citoyenneté et le développement SID, et ancien directeur général de la société pétrolière ExxonMobil en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. La suite de notre émission juste après le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 58 ou encore par SMS au 081 05 15 758.
Quelles pourraient être les conséquences sur les quotidiens des Congolais? Honorable Martin Saoulou, comment vous répondez à cette question?
Écoutez, d'abord, le prix d'un dollar 25 pour l'économie congolaise est énorme. Donc, je suis d'accord, il faut comparer ce qui est comparable avec le niveau de revenus que nous avons ici. 1,25 dollars, c'est énorme, et votre auditeur avait raison que la non-mise en valeur de nos ressources est aussi la base de ce que nous connaissons aujourd'hui, et quand je parlais de création de richesses, et je me référerai à cela. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, vous venez de suivre, depuis le 4 novembre dernier, le PNUD a publié son indice du développement humain pour l'année 2010. Nous sommes 168e sur 169 pays. Donc, et ils ont affiné l'analyse plus loin. Nous sommes parmi les trois pays au monde aujourd'hui où l'on vit moins bien qu'en 1970. Conséquence, c'est que cela va s'empirer. Je suis tenté de suivre l'analyse de M. Kikiri pour dire, voilà, il y a le pouvoir d'achat. Mais les pouvoirs d'achat aujourd'hui, vos auditeurs qui nous suivent, ils se demandent dans quel pays ils se trouvent. Est-ce qu'ils vivent mieux aujourd'hui qu'hier? Le plus du fait de nous dire que les gens vivent moins bien. On va plus loin. Transparency International. Ils ont encore sorti, comme a dit, des statistiques la semaine passée. 14e pays le plus corrompu au monde. Si cet argent qui va dans la corruption servait à la création de richesses, on pouvait s'en tirer. On peut encore continuer dans les doing business où nous sommes 182e pays sur 183. Donc, conséquence, demain, c'est qu'il y aura des situations qui sont difficiles pour les Congolais. Déjà, hier, on a augmenté les prix du pain et autres. Demain, quand les transports vont augmenter, quand tous les autres produits sur le marché vont augmenter, quelle sera la place du citoyen dans cette économie? Donc, ce que je veux ici, on est habitué à utiliser un terme qu'on appelle le panier de la ménagère. On peut dire tout ce que nous voulons ici, mais les consommateurs, les ménagères congolais, comment est-ce qu'ils vont vivre demain? Comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui? Et aujourd'hui, demain, comment ça sera? Donc, il y a un problème, et je reviens là-dessus, c'est qu'il faut ajuster nos politiques. Il faut se rendre à l'évidence que les gouvernements ont échoué, que les gouvernements n'arrivent pas à maîtriser les paramètres. Les gouvernements n'ont pas une politique économique. Et quand on dit la vérité, alors les gens sont traités de tous les noms. Alors on ne veut pas, nous sommes devenus une république où dire la vérité devient un péché. Enfin, nous sommes en démocratie, il faut laisser des fois les gens dire la vérité, comme ça les gens vont se corriger. Et je crois que si nous avons un gouvernement responsable à partir de demain, et ce gouvernement à partir de maintenant, ce gouvernement doit regarder et utiliser tous les paramètres, regarder tout ce que nous avons dans l'économie pour rendre la vie des citoyens meilleure.
Merci, M. Fayoulou. M. Sikiri, est-ce que vous avez pensé aux répercussions que cette hausse pourrait avoir sur le quotidien des Congolais?
Comme je n'ai cessé de le dire depuis le début de l'émission, c'est ça le rôle du gouvernement. Le gouvernement doit veiller au bien-être de la population. Donc, logiquement, avant de procéder à cet ajustement, il y a eu des analyses qui ont été faites. Il y a eu plusieurs scénarios qui avaient été faits. Et si vous regardez, si vous suivez très bien la politique, monsieur l'honorable Fayoulou venait de dire que, bon, écoutez, il faut repenser les politiques. Mais vous avez suivi la séance qui a eu lieu au ministère de l'Économie nationale entre le ministre des Finances et le ministre de l'Économie nationale sur le problème des structures de prix. Ça, c'est attaquer cette baisse de prix, donc la baisse d'inflation, à travers le toilettage des structures de prix et les différents opérateurs économiques dont les structures de prix ont été analysées et dans lesquelles on a constaté des écarts par rapport à ce que recommande la loi dans l'approche des calculs de marge bénéficiaire et autres, ont été frappés. Donc, c'est pour vous dire que cette augmentation s'accompagne également de mesures, raison pour laquelle j'avais parlé, et j'ai dit, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour aider à la préservation du pouvoir d'achat de la population? Donc, ce n'est pas que, je suis d'accord avec, donc, j'ai suivi le discours de l'honorable Fayoulou, quand il dit qu'il y a la fraude fiscale. Effectivement, le gouvernement regarde dans la même direction que l'honorable Fayoulou. Vous avez suivi la campagne que mène le ministère des Finances en ce qui concerne le civisme fiscal et le ministre de l'Économie qui a démarré avec le civisme économique. Tout cela concourt justement à cette approche de structuration, restructuration de l'économie, je vais même dire, et même la restructuration de la mentalité. Parce que bon, les gens sont habitués à évoluer dans l'incivisme, aussi bien économique que fiscal, qu'on est tenté de vouloir rétablir. Donc, logiquement, et je me dis, il y a des actions à faire, mais vous savez, vous ne pouvez pas faire tout en une fois et le même jour.
Merci, M. Sikiri. Georges Mukuna, président de la Commission nationale des pétroliers à la SEC, qui dit augmentation du litre de pétrole à la pompe. automatiquement le prix du transport aussi augmente.
Oui, ça c'est vrai. Ça augmente. D'ailleurs, il y a déjà une relation directe. Hein. C'est-à-dire lorsqu'on augmente le prix de carburant, augmente dans un certain pourcentage, automatiquement, il y a derrière un réajustement de coût de transport.
Et ça pourrait même avoir des répercussions sur les denrées alimentaires.
Oui, c'est évident. Ça m'a l'air évident. Donc en fait, il y a des réajustements qui pourront intervenir. Mais bon, le problème, c'est est-ce que les augmentations, lorsque les pétroliers, le prix du carburant augmente de 18%, est-ce que ça veut dire que les transports vont augmenter dans les mêmes proportions? Est-ce que les produits alimentaires vont augmenter dans les mêmes proportions? J'ai dit non. Parce qu'en fait, le carburant n'est qu'une partie dans la structure de prix de ce qu'il utilise. Donc, si dans ce que vous utilisez, le carburant intervient, à 25%, donc en fait, l'impact ne pourrait être que 18% de 25%. Donc, il y a une autre situation, c'est que les gens augmentent le prix non proportionnellement aux augmentations de base qui ont justifié ces augmentations de prix. Mais sinon, oui, les prix, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient réajustés conséquemment.
Et qu'est-ce que...
dans des proportions qui, généralement, sont exagérées.
Alors, on va aussi conclure, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Et qu'est-ce que vous proposez au gouvernement pour que les prix des denrées alimentaires ne galopent pas, que les prix ne poussent pas aussi? Parce que, généralement, souvent, à la fin de l'année, on a l'impression que les prix haussent.
Oui, en fait, moi, la recommandation, elle est double. C'est-à-dire, au-delà, j'ai toujours pensé que dans la vie, il y a deux éléments. Il y a le prix, et puis il y a la stabilité de l'approvisionnement. Le juste prix, le bon prix, c'est le prix qui garantit au minimum qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas de pénurie et tout. Et donc, ce prix peut être différent de ce que les gens attendent par rapport même à leur pouvoir d'achat. Donc là, pour moi, c'est que ce type de réajustement, s'il peut permettre de garantir la régularité de l'approvisionnement, eh bien, je pense que c'est mieux d'avoir cette régularité à la fin de l'année.
Merci, M. Moukoula. M. Fayoul, votre conclusion en 30 secondes.
Et dans ma conclusion, j'ai dit, j'espère que le ministre de l'économie va être invité à l'Assemblée nationale pour poursuivre ces débats. Et je dis, il faut vraiment penser à la population. Il faut un vrai programme économique et social. Il faut que nos dirigeants soient responsables.
Merci, honorable Fayoulou, monsieur Fikiri. La population, est-ce que la population ne va pas, vous promettez que la population ne va pas sentir cette hausse du carburant sur leur vécu quotidien?
Non, je ne peux pas dire que la population ne peut pas sentir. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais j'ai dit tout simplement que ne pas le faire, c'est perdre les atouts budgétaires attendus, c'est préparer le pire en 2011. Et je crois que ce n'est pas dans la responsabilité d'un gouvernement responsable, excusez-moi la psychologie, d'autoriser cela.
Merci, M. Kikiri, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Céline Couture vous l'a présenté, Alain Goyeto, micro.